L'actualité des Alpes du Sud, les collectivités au chevet des commerçants pour tenir le choc de la crise sanitaire.
Et du deuxième confinement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce 3 aides pour les restaurateurs, hôteliers et cafetiers. Une aide au paiement du loyer, un accompagnement et la distribution de masques et tests antigéniques. Quant à la communauté de communes du Sisteron-et-Buëch, les commerçants basalpins se voient épaulés dans la mise en ligne de leurs produits avec un paiement de l'abonnement à la plateforme Home & Drive.
Mais malgré tout cela, il y aura de la casse.
C'est ce que craint le président de la Fédération du BTP des Alpes-de-Haute-Provence, Julien Rey, alors que les carnets de commandes se désemplissent à vue d'œil. Il en appelle aujourd'hui aux collectivités locales pour jouer leur rôle de maître d'œuvre.
Étalons les vacances, c'est l'appel lancé par Arnaud Murgia.
Selon le maire de Briançon, éviter les chevauchements entre zones académiques permettrait de sauver la saison d'hiver en la rallongeant de 4 semaines.
Et puis la digue des colporteurs au beau milieu d'un conflit épistolaire entre le département et la ville de Barcelonnette.
Épistolaire, car tout se règle par courrier interposé. René Massé, le président du département proposait à la commune de reprendre la digue des colporteurs en contrepartie de la réalisation de travaux de la part de Barcelonnette. C'est un refus du maire Sophie Vaginet. Météo.
Eh bien, pas de changement. Le puissant anticyclone maintient un temps sec et bien ensoleillé sur nos deux départements. Alors, les températures fraîches ce matin seront vite oubliées. Ça remonte. Les maximales entre 12 et 15 degrés prévues cet après-midi sur nos deux départements. La crise sanitaire ne doit pas laisser sur le carreau les petits commerces. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est donc à leur chevet.
Des actions supplémentaires vont être menées pour aider les restaurateurs, hôteliers et cafetiers. 3 aides additionnelles ont été décidées. Tout d'abord, 3 millions d'euros pour les 6 000 petits commerces fermés administrativement et ce, afin d'aider à payer leur loyer. Pour en bénéficier, il faut avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 400 000 euros et moins de 5 salariés. 500 euros seront versés en janvier prochain. Ensuite, un accompagnement pour préparer la sortie de crise sera mis en place dès janvier. Ce programme permet de bénéficier d'un diagnostic complet de l'activité. Finalement, le volet sanitaire et l'équipement reste essentiel avec 150 000 masques lavables et 20 000 tests antigéniques pour l'Union des métiers et des industries hôtelières en région qui représente 29 500 salariés, 11 000 non salariés et 9 000 saisonniers en hiver. Les aides sont également locales avec la communauté de communes du Sisteron-et-Buëch qui annonce un accompagnement des commerçants vers le numérique. Avec l'appui de la CCI des Alpes-de-Haute-Provence, 68 d'entre eux résidant sur la partie basalpine de la communauté de communes bénéficieront d'une prise en charge totale des 15 500 euros que coûte l'abonnement annuel à la plateforme de e-commerce Home & Drive. Autre initiative, la mise en place de bons d'achat bonifiés à hauteur de 20% pour inciter à acheter auprès des commerçants du Sisteronais. Finalement, les restaurateurs ne sont pas oubliés. En tant que maire de Sisteron, Daniel Spagnou proposera lors du prochain conseil municipal une délibération pour une exonération totale sur l'année 2020 de la taxe sur les terrasses, des cafés, restaurants et autres commerces, ainsi qu'une ristourne sur les loyers des locaux commerciaux appartenant à la ville, soit au total un nouvel effort de 40 000 euros.
C'est inévitable, il va y avoir de la casse. Le discours de Julien Rey, le président de la fédération du BTP 04, ne se veut pas pessimiste, mais inquiet.
Car les carnets de commandes des entreprises du BTP basalpine s'amenuisent, les niveaux de mise en chantier, appel d'offres et permis de construire sont au plus bas, explique-t-il.
Aujourd'hui, en termes de comparaison sur l'année 2019, sur le niveau d'appel d'offres, on est à 60% sur la période de janvier à fin septembre. C'est historiquement bas. Au niveau des logements autorisés, donc des permis de construire qui ont été autorisés, on est à 63%, donc on est presque pareil à 40% de baisse. Et sur les permis de construire type tertiaire ou autre, 75%, donc 25% de baisse. Si les chiffres se confirment et qu'on est face à une baisse d'activité de 40% à partir du printemps, nos effectifs et nos entreprises vont être lourdement touchés. 40% de baisse d'activité, ben, si on réfléchit simplement, c'est 40% de baisse des effectifs. Sur un département comme les Alpes-de-Haute-Provence, c'est 1500 emplois qui sont concernés.
Dès le printemps prochain, ce serait donc 40% d'activité en moins, soit 40% d'emplois en moins. 1500 effectifs seraient concernés. Selon Julien Rey, il faut lancer un appel aux collectivités pour qu'elles sortent tout ce qu'elles ont dans les tuyaux, alors que la commande publique représente 70% de l'activité des travaux publics et 50% du bâtiment.
Et puis un autre volet économique hein, qui est en suspens, c'est la saison de ski.
Les stations ne savent pas à quelle sauce elles seront mangées face à la crise sanitaire et aux restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Une voix se fait jour, celle du maire de Briançon, Arnaud Murgia, qui appelle à étaler les vacances scolaires pour sauver la saison. En évitant les chevauchements des différentes zones académiques, cela permettrait de rallonger de 4 semaines les vacances d'hiver et de printemps. L'édile y voit 3 bénéfices économiques, tout d'abord avec un meilleur dimensionnement des outils industriels et commerciaux des zones touristiques françaises et donc une meilleure rentabilité sanitaire en faisant baisser le nombre de personnes arrivant sur une même période dans un même lieu en vacances. Finalement écologique avec une répartition des vacanciers dans le temps qui permettrait de préserver les sites naturels du Briançonnais d'un tourisme de masse post-confinement.
Et puis une bonne nouvelle, hein, au milieu de ce tableau noir, une entreprise a été sélectionnée pour bénéficier d'une partie du plan de relance.
Il s'agit de la partie qui vise à soutenir la filière aéronautique. Parmi les 52 derniers projets sélectionnés, soutenus à hauteur de 47 millions d'euros par l'État, eh bien il y a le projet de l'entreprise Valco Industrie installée au Pouette, qui est le seul à être choisi dans les Alpes du Sud. Proposant des compresseurs de réfrigération sur mesure pour l'aéronautique et la défense, la société Oalpine pourra notamment moderniser ses installations industrielle et optimiser ses performances via une transformation numérique.
Un an après l'effondrement d'un pénitent d'Aimé, la commune doit revoir son hommage.
C'était le 2 décembre 2019. Cet amas rocheux s'abattait, détruisant 2 maisons pour un bilan miraculeux de 2 blessés légers. Un hommage était donc prévu dans 1 semaine et demie pour les personnes qui se sont mobilisées. Mais en raison du contexte sanitaire, il ne pourra avoir lieu. À la place, la sirène retentira 2 fois à 16h et le lieu de l'éboulement sera éclairé à 17h30. Enfin, à 18h, une allocution du maire ainsi qu'un diaporama seront disponibles sur le site internet et la page Facebook de la mairie.
Et dans le reste de l'actualité, le débat qui enfle entre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la ville de Barcelonnette, en ligne de mire, la gestion de la digue des colporteurs.
René Massette, le président du département, proposait par courrier à la commune de reprendre la digue des colporteurs en contrepartie de la réalisation de travaux de la part de Barcelonnette, entre 3 à 6 millions d'euros pour cette route extrêmement dégradée du fait du passage nombreux de poids lourds nourrissant le transit international vers l'Italie. De nouveau par courrier interposé, le maire Sophie Vagineri-Court considère que la nature de cet axe a changé par son usage d'une voie communale à une voie départementale et ce n'est donc pas à Barcelonnette de payer la facture.
C'est une route départementale qui doit être financée et gérée par le département. Cette digue fait office de déviation. La déviation a été inscrite dans les documents d'urbanisme de la commune depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une déviation qui est départementale puisque c'est la RD900 qui doit être déviée et permettre cette déviation de Barcelonnette. Elle n'a jamais été faite, aucun terrain n'a jamais été acquis pour faire cette déviation. Et donc la commune, qui ne souhaitait plus voir les poids lourds traverser en centre-ville, a initié ses travaux sur berge. Et aujourd'hui, la chaussée est dégradée, il faut de nouveau faire des travaux parce que le trafic poids lourd est très important avec l'Italie. Et donc on nous demande de refaire des travaux alors même qu'on n'a pas fini de payer les emprunts des premiers travaux. Donc c'est tout à fait inacceptable. C'est même insultant de nous envoyer une telle demande parce que c'est vraiment se moquer de nous, quoi.
Dans l'optique de préserver la digue des colporteurs qui a déjà coûté plus de 5 millions d'euros à la mairie pour sa mise en conformité et sa sécurité, l'édile a décidé de prendre un arrêté de limitation du tonnage des poids lourds dans les prochains jours. Une décision qui a rencontré l'avis défavorable de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, Violaine Demarais, parce que cette route est classée par décret comme voie à grande circulation. En bref, Émilie Vautrin démissionne de son poste de maire de Clamensanne 4 mois après avoir été désignée comme édile de cette petite commune de 176 habitants. Elle s'explique auprès de ses administrés dans une lettre en évoquant des tensions au sein du conseil, les projets, le fonctionnement de la mairie, la prise de décision en pâtisse. Cela ne m'est pas acceptable, explique-t-elle. Elle préfère donc prendre du recul tout en restant conseillère municipale et facilitant la transition avec le futur maire.
Alpin, reportage, alors que la saison est en suspens, on se prépare tout de même à l'ouverture.
La station de Pellevoux-Valouise met tout en place pour être prête à accueillir ses clients le 19 décembre prochain. Et pour pallier à toutes les éventualités, un exercice d'évacuation du télésiège Préron en collaboration avec le PGHM de Briançon a été organisé vendredi. Christophe Lourenceau était sur place.
Ce que vous redoutiez le plus vient de se produire. Le télésiège vient de tomber en panne et vous avez les jambes dans le vide sans savoir dans combien de temps vous allez être secouru. C'est pour cette situation précise que le personnel de la station de Pelvoux-Val-Louise et le PGHM de Briançon s'entraînent ensemble pour retravailler les connaissances de chacun. Pour ce premier cas de figure simulé vendredi matin, l'exercice consiste à accrocher la personne à évacuer au treuil pour la remonter vers l'hélicoptère qui déposera la victime sur une zone d'atterrissage en campagne. Tout au long du sauvetage, la sécurité du client est la priorité aussi bien sur l'aspect physique que psychologique, avec une spécificité pour les personnes en situation d'handicap. Immersion avec l'adjudant Alexandre Hochkorn du PGHM de Briançon.
Pour cet exercice, ceux qui font office de plastron, c'est des pisteurs, c'est des moniteurs de ski, donc ils sont habitués, c'est un milieu qu'ils connaissent. Quand on est avec des victimes, il va falloir leur parler, les rassurer, leur expliquer comment on va faire. Parce qu'en fonction des personnes, ça sera un petit peu compliqué. Et ça, c'est à nous, pédagogiquement, de leur expliquer et tout va bien se passer. Depuis quelques années, on voit beaucoup d'handiskieurs qui utilisent les remontées mécaniques et il y a des techniques particulières et une prise en charge qui est particulière pour ces gens-là. Puisque lors d'une évacuation, tout comme les enfants, les handicapés seront des personnes prioritaires à évacuer.
Même si les consignes sont les mêmes que pour le Titanic, cet exercice s'est parfaitement déroulé avec 12 faux clients évacués en 50 minutes. L'après-midi, on change les rôles et c'est le personnel de la station qui doit rejoindre la personne à évacuer en réalisant une évacuation verticale. Explication avec Antoine Mathieu, directeur du domaine skiable de Pelvoux-Val-Louise.
L'évacuation verticale, techniquement, c'est de descendre la personne qui est sur un siège ou sur une télécabine au sol, verticalement. Ça, il y a une équipe de secouristes qui se rend sur le câble. Il se déplace à l'aide d'une roulette sur le câble pour accéder jusqu'au véhicule où il y a le client. Ensuite, on s'approche du client et là, on sécurise le client à l'aide d'un baudrier. On l'accroche à un système de descendeur et on le redescend jusqu'au sol pour qu'il soit évacué du télésiège.
Vous voilà désormais sauvé sur la terre ferme après ce sauvetage spectaculaire et vertigineux, mais assez rare en effet. Il faut revenir en 2011 pour un tel incident à Pelvoux-Val-Louise. 75 personnes avaient été évacuées en 2h30.
Merci Christophe. Ceci étant dit, pour rappel, le PGHM de Briançon doit intervenir en moyenne une fois par hiver pour une panne de télésiège. C'était à Serre-Chevalier l'année dernière et à Puy-Saint-Vincent l'année d'avant.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Allez, le Vendée Globe, au 15e jour, la stratégie prend désormais place.
Damien Seguin, le Briançonnais, reste 13e dans la course. Il garde le cap au large du Brésil, mais a dû faire face dimanche à une journée des plus calmes.
Ouais, c'est pas une journée facile aujourd'hui, surtout depuis le début de l'après-midi. Tombé dans une espèce de transition météo avec des grains partout, ce qui fait qu'il y a un peu de vent nulle part. Et voilà, vous êtes retrouvé au pré, dans très très peu de vent, ça avance pas beaucoup. Et du coup, c'est pas facile à vivre, hein, parce que toujours pareil, t'as toujours l'impression que les autres vont à Mach 2 à côté de toi et que t'es en train de tout perdre l'espace de quelques heures, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais voilà. Moi déjà, j'ai pas ça la pétole, je sais pas s'il y en a vraiment qui aiment ça, mais voilà, en plus, c'est fatigant parce qu'on ne peut pas se reposer dans ces moments-là. Pas se reposer parce qu'il faut sans cesse soit changer de voile, soit régler, vérifier le cap parce que ça part dans tous les sens avec les grains autour. Donc voilà, pas cool, j'espère que cette nuit ce sera un petit peu mieux fait.
Lui a passé ce week-end l'Équateur, c'est le skipper originaire de Vars, Romain Attanasio. Il est désormais 17e et doit essuyer quelques dommages collatéraux. Après avoir dû monter à son mât pour procéder à des réparations, son pied est enflé et son tibia commence à s'infecter suite à une plaie. Mais il garde le moral et ce dimanche, il s'est même réveillé aux côtés de l'une de ses concurrentes, Clarisse Kremer.
Bon, on a passé l'Équateur, je suis traqué sans vous, tout seul avec Neptune et le bateau parce que c'est un peu chaud, j'arrive pas à me déplacer à l'arrière, j'ai failli valdinguer. Donc, parce que ça avance pas mal, là, on est à voilà, 15-2, bon matching, et ça mouille beaucoup. Donc à la vôtre, elle est où? Elle est par là, et à ta santé, Clacla! Porte-toi bien, on va passer la nuit, bord à bord.
Voilà, un Vendée Globe à suivre sur Alpe 1.
Vous êtes témoin d'un événement? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.